On entend dire des personnes dire « mais le Seigneur ne parle plus, le Seigneur ne répond pas à nos prières, mais est-ce que nous avons le cœur ouvert ? Est-ce que nous avons nos oreilles attentives ? Est-ce que nous recherchons sa face ?» Nous sommes tellement préoccupés par la vie, par notre quotidien, que des fois on ne prend même plus le temps d'écouter la voix de Dieu. J'ai cette pensée quand Élie, il est parti, le Seigneur lui a parlé par un murmure doux et léger. Il n'y a pas parlé par un bruit bruyant, par quelque chose de fort, de puissant, mais par un murmure doux et léger. Et je crois que le Seigneur, il peut aussi nous parler dans le lieu secret, lorsque nous tenons à genoux devant lui. Amen. Ce matin, j'avais à cœur qu'on puisse prendre ensemble la généalogie de Jésus. Alors c'est un thème qu'on n'entend pas souvent. C'est vrai, qui de vous a déjà lu la généalogie de Jésus en entier, honnêtement. C'est vrai, des fois on commence, généalogie de Jésus, blablabla, et amen. C'est vrai, lorsqu'on lit toutes les généalogies, dans les chroniques, dans les rois, c'est vrai, bien souvent on passe vite, parce que c'est long et ça peut nous sembler sans importance. Et lorsqu'on voit dans l'évangile de Matthieu, le premier verset commence par généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi l'évangéliste Matthieu, il aurait commencé par la généalogie de Jésus? On pourrait se dire que ça n'a pas d'importance, on pourrait se dire, mais pourquoi donner toute cette liste de noms? C'est long à lire, c'est fatigant. Pourquoi il n'a pas commencé directement par la naissance de Jésus? C'est vrai, on pourrait se poser cette question-là, mais moi je crois que la parole de Dieu, il n'y a rien à enlever et il n'y en a rien à rajouter. Et si cette généalogie, elle est là, c'est parce qu'elle a son importance. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Vous êtes prêts? Alors, on va lire dans Matthieu 1, verset 1. On va prendre notre souffle. C'est parti. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Phares et Zara. Phares engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminabab, Aminabab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboab, Roboab engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Zalatiel. Zalatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Éliakim. Éliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Akim. Akim engendra Éliud. Éliud engendra Éliazar. Éliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Amen. Ouf. Pour celles et ceux qui cherchent un prénom pour leurs enfants, voilà une belle liste, n'est-ce pas? Et au travers de cette généalogie, donc Jésus, il établit toute une généalogie en partant d'Abraham et jusqu'à Jésus. Matthieu, au travers de cette généalogie, il cherche à valider la prétention royale de Jésus-Christ en montrant qu'il est le descendant légal de David au travers de son père Joseph. Et ainsi, si Jésus est prouvé qu'il est le prétendant légal au trône de David, alors il peut être reconnu comme le Messie, comme le Christ. C'est pour ça que Matthieu, il commence par là, il commence par la base, pour montrer que Jésus est le fils de David et le fils d'Abraham. Que veut dire le fils de David? Le fils de David, c'est Jésus, il est attendu comme le Messie. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie attendu qui devait descendre de la lignée de David. Vous savez ce que signifie le nom Jésus ? Yahvé sauve, Yeshua sauve, Dieu notre sauveur. C'est tout ça, c'est tout cela. Le Christ est le Messie que les Juifs attendaient pour être le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Parce que depuis la Genèse, depuis le commencement, depuis Adam et Ève, l'homme a désobéi à Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme a péché contre Dieu. Et ainsi, Dieu, depuis toute éternité, il avait prévu déjà un sauveur. Et ce sauveur est le Messie. Ce sauveur est Jésus-Christ. Et donc, le peuple attendait la venue du Messie. Et si Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être le peuple, l'ancêtre du Messie, ce n'est pas parce que ce peuple était meilleur que les autres, loin de là, loin de là. Si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous verrez combien de fois ce peuple a été rebelle, combien de fois ce peuple a été désobéissant. Mais regardez ce que va dire la parole de Dieu. Deutéronome 7, 7 à 8. Il dira Dieu s'adressera à ce peuple, il dira, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Voilà qui remet un peu les choses à leur place. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il vous a, il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. C'est parce que Dieu aimait son peuple, c'est parce que Dieu aime son peuple, parce que Dieu aime l'humanité qu'il a voulu que son fils Jésus-Christ puisse descendre du peuple d'Israël. Mais Jésus, le Messie, est celui qui a accompli les prophéties de l'Ancien Testament au travers de l'Ancien Testament, nous voyons les prophètes annoncer la venue de Jésus. Et Jésus est le Messie qui a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus est le Messie que le peuple juif attendait. Mais lorsqu'il était là sur terre, certains et même beaucoup refuseront de reconnaître que Jésus était le Christ, que Jésus était le Fils de Dieu. Certains diront, mais n'est-ce pas le fils du charpentier ? Mais oui, je connais sa mère, je connais ses fils, je connais son frère, ses frères. C'est pas lui le Messie. Moi, je connais son père, je connais sa mère. Et les paroles de Jésus, Jésus par sa manière de vivre, Jésus par sa manière de parler, par ce qu'il disait, par ce qu'il faisait, ça suscitait de grandes interrogations. Et les gens autour d'eux, ils étaient pas tout à fait d'accord. Regardez dans Jean 7, 40 à 43. Nous lisons, les gens de la foule, ayant entendu ces paroles, les paroles de Jésus, il disait, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Lorsque Jésus était là, pourtant ils étaient en face du Messie, en face du Fils de Dieu, ils n'étaient pas d'accord pour le reconnaître. Certains diront, mais c'est lui le prophète dont Moïse annonçait la venue. D'autres disaient, mais oui, c'est lui le Christ. Moi je veux croire que c'est lui le Christ, le Messie. Et d'autres diraient, ils vont dire, mais c'est lui qui vient de la Galilée, alors que finalement les Écritures nous disent qu'il devait venir de Bethléem. Mais ils ne savaient pas encore que Jésus était né à Bethléem. Ils ne savaient pas que Jésus était le descendant de David. La foule avait été dans cette interrogation parce qu'ils étaient attachés aux Écritures, parce qu'il y avait des promesses, parce qu'il y avait des prophéties. Mais lorsque Jésus était là, ils refusaient de reconnaître qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Aujourd'hui encore, les gens refusent de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Certains diront, oui, Jésus a existé, Jésus était un homme qui a vécu, certains diront que c'est un prophète. Certains s'arrêteront sur le fait que c'est un prophète. Mais toute la Bible nous montre que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu attendu. Il est le Sauveur du monde. Il est le Fils de Dieu envoyé par amour pour nous, afin de sauver l'humanité. Jésus est Yahvé sauve. Il est celui qui est venu sauver les pécheurs. Il est venu sauver ceux qui sont perdus. Matthieu 18, 11, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient dans le besoin. Si ce matin, c'est la première fois que tu entends parler de Jésus, eh bien, sache que Jésus est venu pour te sauver. Le Jésus s'intéresse à toi. Le Seigneur s'intéresse à toi. Il est bien plus qu'un prophète, bien plus que ce qu'on entend dans les livres d'histoire ou même à l'école. Jésus est le Fils de Dieu. Et donc Matthieu, s'il commence cette généalogie-là, c'est pour montrer que Jésus est le prétendant légitime du trône de David. Il démontre tout cela parce que finalement, il commence par la base. Parce que si Jésus, il n'est pas prouvé qu'il est le descendant légitime de David, alors il est impossible de démontrer qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir de la lignée de David. Alors Matthieu, il va démontrer tout cela en partant d'Abraham, en passant par David et en allant jusqu'à Joseph. On regarde dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait une promesse à David. Il avait fait une promesse que son royaume serait établi pour toujours et que son règne ne prendrait jamais fin. Regardez dans 2 Samuel 7, 12 à 16, il dira: quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, il parlait de Salomon, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il a fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Amen. Voilà la promesse que Dieu avait faite à David, que son trône sera affermi pour toujours. Et cette promesse, elle s'est réalisée en Jésus-Christ, le descendant de la lignée de David, le prétendant au trône. Il est celui qui règne aujourd'hui. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité aujourd'hui. Il règne aux côtés du Père. Son trône est éternel. Lui qui vit éternellement, son trône subsistera pour toujours. Jésus est celui qui règne dans les cieux aujourd'hui, mais est-ce qu'il est celui qui règne dans nos cœurs aujourd'hui? Est-ce qu'il est le roi des rois, notre Seigneur des seigneurs? On peut dire, mais Seigneur, je crois en toi, Jésus, je crois en toi, mais est-ce que nous abandonnons pleinement à lui? Est-ce qu'il est celui qui dirige nos pas? Est-ce qu'il est au centre de nos pensées? Est-ce qu'il est celui qui conduit notre vie? Est-ce que nous sommes pleinement soumis à lui? C'est une question qu'on pourrait tous se poser aujourd'hui, ce matin, dans notre cœur. Est-ce que Jésus est notre roi? On l'a chanté, Seigneur, je me prosterne devant toi. Seigneur, je veux te louer, t'adorer. Mais est-ce que réellement c'est ce que nous pensons au fond du cœur? Moi, je crois que lorsque nous considérons Jésus comme le Seigneur, le roi des rois, le maître dans notre vie, alors nous verrons des miracles dans notre vie. Nous verrons des choses s'accomplir. Parce que c'est bien plus qu'une simple croyance ou une simple adhésion, mais c'est faire pleinement confiance au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui en qui rien n'est impossible. Il est au-dessus de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Et David l'avait reconnu. Il dira dans le psaume 138, « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en ta présence de Dieu, en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom. À cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. » Que nous puissions avoir cette même attitude et dire, mais Seigneur, je me prosterne devant toi. Je veux que tu sois le roi dans ma vie. Je veux que tu sois le Seigneur dans ma vie. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, rien n'est au-dessus de toi. Rien n'est au-dessus de ton règne. Je veux que tu sois le roi dans ma vie. Dans la généalogie de Jésus, on voit qu'il y a différents rois qui sont énumérés. On voit qu'il y a Salomon, on voit qu'il y a Akaz, Ézéchias, etc. Et on voit aussi qu'il y a un roi, Jéconias. Et ce roi Jéconias était un roi qui était méchant et qui avait désobéi à Dieu. Et ce roi, il recevra une parole de la part de l'Éternel. Le prophète Jérémie, il va lui adresser une parole de la part de l'Éternel. Et il va lui dire cela dans Jérémie 22, verset 30. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie 22, verset 30, « Ainsi par l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de tes descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. À cause de la méchanceté de ce roi, Dieu a déclaré qu'aucun de ses fils ne pourrait régner sur le trône de Juda. » Pourtant, on le voit dans la généalogie de Jésus. C'est-à-dire qu'il y aurait un problème dans la généalogie de Jésus. Pourquoi Dieu aurait dit qu'il n'y aurait pas de descendants après ce roi Jéconias? Or, Jésus il nous montre dans sa généalogie, on nous montre que Jésus descend bien de ce roi Jéconias. Pourquoi alors on peut dire que Jésus il est le roi? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que Jésus est le prétendant au trône de David? S'il est de la lignée de Jéconias, alors il n'aurait pas pu, parce que Dieu a dit à ce roi Jéconias qu'aucun ne pourrait s'asseoir sur le trône de David. Mais Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon, Dieu est souverain, Dieu est au contrôle de toutes choses. Et ce n'était même pas un problème pour Dieu, parce que Dieu il a tout prévu par avance. Dieu a finalement résolu ce problème par la naissance miraculeuse de Jésus. Jésus n'est pas né de Joseph, mais il est né du Saint-Esprit. Voilà finalement ce qui a permis de contourner cette malédiction qui a été faite à Jéconias. Il était dit à Jéconias que tu n'auras pas de postérité qui pourra régner sur Juda. Mais Dieu a permis que finalement Jésus puisse naître miraculeusement de Marie. Et finalement qu'il esquive, si je peux le dire, cette malédiction de Jéconias. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Matthieu 1:18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'elles eussent habité ensemble. Si Jésus il était le descendant de Joseph, alors il n'aurait pu être le prétendant, parce qu'il descendrait finalement de ce roi Jéconias. Mais parce que Jésus est né miraculeusement du Saint-Esprit par Marie, alors il peut être le prétendant, le roi des rois, le Seigneur, le descendant légal de David. Parce que les paroles de Dieu qui ont été adressées à ce roi qui était méchant ne frappaient pas la généalogie de Marie. On voit dans Luc la généalogie de Marie, on ne va pas la lire, rassurez-vous, mais on voit que finalement la généalogie de Marie, elle passe pas par le roi Jéconias. Et ainsi, cette malédiction qui tombait sur la postérité de Jéconias, eh bien, elle évite cela. Elle évite la lignée de Marie et elle ne retombe pas sur Jésus. Dieu avait tout prévu par avance. Ainsi, le Seigneur Jésus est le seul qui pouvait prétendre au trône, le seul qui pouvait descendre de la lignée de David tout en évitant finalement cette parole qui était adressée à Jéconias. Jésus est le seul qui est digne et le seul qui pouvait être le prétendant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. Il est le seul qui pouvait être le prétendant de David, le seul qui pouvait régner. Dieu ne laisse aucune place au hasard. Si Dieu a établi toutes ces choses-là, c'est parce qu'il a tout prévu depuis toute éternité. S'il avait donné une parole de malédiction au fils Jéconias, à ce roi Jéconias, parce qu'il était méchant, mais il savait déjà qu'il allait avoir une autre solution pour que Jésus puisse contourner cela. Jésus a pu esquiver cela. Dieu est au-dessus de nos problèmes. Dieu est le Dieu de la souveraineté, le Dieu de la providence. Il n'y a aucun problème qui n'est trop grand pour Dieu. Si ce matin, tu te dis, mais Dieu, il peut rien faire face à mon problème. Dieu peut rien faire face à ma difficulté. Je voudrais que dire que Dieu est souverain. Dieu sait tout. Dieu, depuis toute éternité, il avait prévu cette généalogie parfaite de Jésus. Il avait tout prévu par avance. Dieu ne serait-il pas plus grand que nos problèmes? Dieu ne serait-il pas plus grand que nos soucis, que nos inquiétudes? Nous voyons finalement que devant nous, mais Dieu voit bien au-delà. Dieu voit l'avenir, notre passé, notre futur. Dieu voit toutes choses. Notre Dieu est merveilleux. Que nous puissions encore nous abandonner à lui. Reconnaître que oui, notre Dieu est puissant. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes. Je veux croire que Dieu a tout inscrit parfaitement. Dieu a établi cette généalogie de Jésus parfaitement. Et je veux croire que Dieu, il tient ma vie entre ses mains. Peu importe les difficultés, les problèmes. Il est dit dans cette généalogie de Jésus que Jésus est le fils de David, comme on l'a vu, mais il est aussi le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham signifie qu'il est le fils de la promesse qui a été faite à Abraham. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il avait fait une promesse, il lui dira dans Genèse 12, il va lui dire, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Cette source de bénédiction, Dieu avait fait cette promesse à Abraham. Il ne savait pas encore quelle serait finalement cette bénédiction, mais il lui a fait cette promesse qu'il sera une source de bénédiction. Plus tard, Dieu mettra à l'épreuve Abraham en lui demandant d'offrir Isaac. Et Abraham avait pleinement confiance à Dieu. Et il décida d'obéir. Et alors qu'il était prêt à sacrifier son propre fils, l'ange de l'Éternel l'arrêta. Et il lui dira, mais parce que je vois que tu as confiance en moi, parce que tu étais prêt à offrir même ton fils unique, celui que tu aimes. Et il va lui dire, dans Genèse 22, 15, il va lui dire, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Le verset juste après. Parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Et cette promesse qui a été faite à Abraham s'est vue être accomplie par Jésus-Christ, qui est le descendant d'Abraham. Comme on le voit dans cette généalogie, Jésus est le descendant d'Abraham. Il est celui qui a accompli les promesses qui a été faites à Abraham. Il est la bénédiction qui a été promise. Il est cette source de bénédiction. La postérité par laquelle toutes les nations de la terre seraient bénies. Paul avait réalisé cela. Paul, il dira au Galates 3, verset 16, il dira que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Paul avait reconnu que cette postérité était Jésus-Christ. Il est le fils de la promesse, celui par lequel toutes les nations seront bénies. Et cette bénédiction, c'est le salut en Jésus-Christ. Dieu avait fait cette promesse à Abraham depuis ce temps. Il a fait cette promesse, il y aura une bénédiction au travers de toi. Tu seras la source de la bénédiction. Par ta postérité, les nations seront bénies. Par ta postérité, il y aura cette possibilité de salut en la foi de Jésus-Christ. C'est cette postérité pour toutes celles et ceux qui décident de croire en Jésus-Christ, ils seront bénis. Pour celles et ceux qui décident de croire en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'ils ne périssent point, mais qu'ils héritent de la vie éternelle. Que celui qui croit au Seigneur Jésus, celui qui croit qu'il a ressuscité des morts, alors il sera sauvé. Voilà la bénédiction qui a été faite à Abraham. Voilà que Jésus a pleinement accompli la promesse qui a été faite à Abraham. Ainsi, Dieu avait promis que ce soit à David ou à Abraham un successeur exceptionnel. Et que ce soit pour l'un ou pour l'autre, Dieu a pleinement accompli ses promesses. On a le Dieu qui accomplit ses promesses. Lorsque Dieu fait une promesse, elles sont oui et amen. Les promesses s'accomplissent. Le prophète Habacuc qui dira, mais si la promesse tarde à arriver, attends-la. Attends-la avec foi. Je ne sais pas si cette parole peut s'adresser à quelqu'un. Si Dieu t'a fait une promesse, attends-la avec foi. Parce qu'elle se réalisera certainement. Dieu est le Dieu des promesses, le Dieu qui voit ses promesses se réaliser au travers toute la Bible. Amen, vous êtes toujours là, c'est bon? Vous n'avez pas trop chaud? Et on voit aussi, au travers toute cette généalogie, on voit non seulement qu'il est le Dieu des promesses, mais on voit aussi qu'il est le Dieu de grâce. Le Dieu de la grâce. On voit que c'est un Dieu qui a manifesté sa grâce au travers de toute sa généalogie. Il commence sa généalogie d'ailleurs par Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais les deux, c'était des pécheurs finalement. Il a fait des promesses merveilleuses à ces deux hommes, Mais ces deux hommes étaient des pécheurs. David, si vous connaissez un peu l'histoire de David, David a péché en commettant l'adultère auprès d'une femme qui s'appelait Bathsheba, et même en faisant tuer son mari qui s'appelait Uri. Mais dans sa grâce, Dieu a pardonné à David. Et Dieu n'a pas retiré les promesses qui lui avaient été faites. Dieu est un Dieu de grâce lorsqu'on lui demande pardon sincèrement. Parce que nous sommes que des pécheurs sauvés par grâce. Et Dieu a, par grâce, s'est servi aussi de David qui n'était qu'un pécheur. Mais même ses erreurs ont eu des conséquences. Dieu avait dit, mais parce que tu m'as désobéi, parce que tu as fait cela, alors le fils qui naîtra, il mourra. Mais Dieu, dans sa grâce, il a permis aussi qu'il puisse avoir Salomon, son successeur. Nous avons un Dieu de grâce. Abraham aussi était un pécheur, un homme pécheur. Et Abraham, dans sa vie, même s'il était un homme de foi, on voit aussi qu'il a péché deux fois en mentant à deux reprises au sujet de sa femme. Parce que Abraham, il nous a dit que sa femme était belle. Elles sont toutes belles, nos femmes, n'est-ce pas? Et Abraham, il avait une belle femme et il aurait pu être fier de sa femme parce qu'elle est belle, mais il avait peur pour sa vie. Il disait, mais parce qu'elle est belle, ils vont me tuer, ils vont me prendre ma femme. Alors, à deux reprises, il va dire, mais c'est ma sœur. C'est ma sœur. Et une première fois à Pharaon, et puis finalement, Pharaon, il va se rendre compte que c'était sa femme. Alors, il va leur dire, mais partez maintenant de chez moi. Une deuxième fois, ça va être avec le roi Abimélec. Abraham, il va encore mentir au sujet de sa femme. Dieu va parler en songe à ce roi. Il va lui dire, mais tu as pris une femme qui était mariée, tu as pris une femme qui avait un mari. Alors ce roi, il chassa et puis redonna Sarah à Abraham. Mais malgré leurs erreurs, malgré leurs péchés, Dieu a fait d'Abraham le père d'Israël, le père de la promesse. Et il a fait de David le père de la lignée dont descendrait le Messie. Nous avons un Dieu de grâce, un Dieu qui a manifesté sa grâce envers Abraham, envers David, malgré leurs péchés, malgré leurs erreurs, mais aussi au travers tous leurs descendants. Parce qu'on voit au travers de la lignée, il y a eu des rois qui ont été bons, mais des rois qui ont été mauvais, des rois qui ont désobéi à Dieu. Mais malgré cela, Dieu n'a cessé de montrer sa fidélité. Dieu n'a cessé de montrer sa grâce et sa miséricorde au travers de son peuple. Nous avons un Dieu de grâce, un Dieu de fidélité. On voit même que Dieu a manifesté sa grâce en choisissant une femme, Marie. On entend certaines choses sur Marie, que Marie, elle n'aurait pas de péché, que Marie cela, Marie ceci, mais Marie était une jeune femme ordinaire, était une femme qui était certes attachée à Dieu, une femme pieuse, qui aimait le Seigneur, mais c'était une femme ordinaire. Et comme tout être humain, c'était une femme pécheresse qui avait besoin d'un sauveur, qui avait besoin de grâce. Et elle le reconnaîtra en elle-même et dira, mais Dieu est mon sauveur, mon Seigneur. Elle le dira en elle-même. Mais Marie a été choisie par grâce, par le Seigneur. C'était un choix difficile pour elle, parce qu'elle savait que derrière, il allait y avoir des conséquences, parce que les gens allaient penser qu'elle avait eu un enfant de Joseph alors qu'il n'était pas encore marié. Et à l'époque, c'est des choses qui étaient graves. Et elle savait qu'il allait y avoir des conséquences dans sa vie. Mais elle décida d'obéir à Dieu. Elle décida de faire confiance à Dieu. Et Dieu manifesta sa grâce envers elle. Et elle reconnaîtra et elle va déclarer, « Je suis la servante de mon Sauveur, la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie avait cette attitude de cœur, cette attitude vraiment de service envers Dieu. Parce que nous avons un Dieu de grâce. Et si Dieu nous fait le privilège de servir de nous, si Dieu nous fait le privilège de pouvoir témoigner, de pouvoir être à son service, mais ce n'est qu'une grâce. Ce n'est pas parce que nous le méritons, parce que nous sommes meilleurs qu'un autre. Marie a été choisie uniquement par grâce. Si nous sommes là ce matin, c'est une grâce de Dieu. Si nous pouvons respirer ce matin, c'est une grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Et je vais m'arrêter sur quatre personnes qu'on voit dans la généalogie. Si vous avez remarqué, lu attentivement la généalogie, il nous est parlé de quatre femmes. Il y a beaucoup d'hommes, mais il y a aussi quatre femmes qui sont énumérées. Et pourtant, cette femme était pas toute avec des vies qui étaient exemplaires, si je peux le dire. Mais si leur présence, leur nom est ici, c'est pour témoigner de la grâce extraordinaire de Dieu. On va prendre la première qui est Tamar. Tamar qui était donc la belle-fille de Judas, fils d'Israël. Et son mari, qui s'appelait Er, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et alors la parole nous dit que l'Éternel le fit mourir. Judas, il dit à Onan, qui est donc le frère de son mari qui était décédé, Er, il dit « Mais prends Tamar pour femme !» Mais finalement, il refusa de la prendre pour femme et puis il mourut aussi. Alors Judas, il dira à Tamar, il va lui dire « Mais demeure chez ton père jusqu'à ce que mon jeune fils y soit assez grand pour te prendre comme épouse. » Mais le jour où il est assez grand, finalement, Judas, il va pas tenir sa promesse parce qu'il avait peur que son fils meure aussi. Alors Tamar, elle va le tromper. Tamar, elle va se déguiser en prostituée et finalement, elle va s'arranger pour avoir des rapports avec Judas, pour avoir des enfants avec lui. Et de cette union illicite naissent deux jumeaux dont nous lisons dans la généalogie. Nous lisons Phares et Zara. De ces deux enfants naissent ainsi une lignée de la postérité et jusqu'à Jésus. Malgré son erreur, malgré Tamar, malgré cela, malgré qu'elle s'est déguisée, malgré qu'elle ait couché envers son beau-père, Dieu a manifesté sa grâce dans sa vie. Dieu, si son nom est inscrit dans cette généalogie, c'est pour montrer que Dieu a manifesté sa grâce dans sa vie. Il a permis qu'il puisse faire partie de la généalogie de Jésus. On voit une autre femme, Rahab qui était une prostituée. Rahab qui est dans le livre de Josué, on voit que Rahab était une prostituée qui habitait Jéricho. Et alors qu'il y a deux espions qui sont envoyés par Josué, Rahab va les recueillir chez elle. Elle va les protéger, elle va les garder, elle va les protéger. Et puis ces deux espions, ils vont faire un serment à cette femme. Ils vont lui dire, mais le jour où Jéricho va tomber, nous on prendra soin de toi. Nous on va veiller sur toi, on va te protéger. Et parce que Rahab craignait Dieu, parce que voilà, elle était attachée à Dieu, elle craignait Dieu, finalement sa vie et sa famille sont tous épargnés le jour où Jéricho tomba. Hébreux 11, 31, on lit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Par la grâce de Dieu, Rahab a non seulement été sauvée au travers de cela, mais par sa grâce aussi, elle a été incluse dans cette lignée. Par la grâce de Dieu, on peut voir notre passé être renouvelé, notre passé être changé. Rahab était une prostituée, une vie qui déplaisait à Dieu, mais par la foi, parce qu'elle a placé sa foi en Dieu, alors nous pouvons de la même manière être une nouvelle créature en Dieu. Peu importe notre passé, peu importe notre erreur, peu importe ce que nous avons pu commettre auparavant, par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Parce que par sa grâce, nous sommes renouvelés. Par sa grâce, nous sommes une nouvelle personne. Nous lisons aussi Ruth qui, je vais pas tout détailler, ça va être long, je vois que l'heure avance, et Ruth aussi qui a perdu son mari, qui était attachée à sa belle-mère, Naomi, et puis c'était une femme qui était pieuse, aimable, sensible, serviable. Et finalement, par la grâce de Dieu, eh bien, Ruth, elle trouva grâce aux yeux de Boaz, qui était un homme riche, un homme puissant, et puis elle a pu rentrer finalement dans la lignée de David. Elle a pu rentrer dans la généalogie. Elle qui était moabite, elle a pu épouser un israélite alors que ça ne se faisait pas à l'époque. Elle a pu rentrer dans cette lignée. Quelle grâce de Dieu. Et puis nous lisons aussi Bathsheba. Bathsheba, on en a parlé avec David qui a commis l'adultère. Mais malgré cela, par la grâce de Dieu, Bathsheba devint la femme de David et la mère de Salomon et l'ancêtre du Messie. Dieu a manifesté sa grâce au travers toutes ces femmes, au travers tous ces hommes. Au travers toutes ces généalogies, nous voyons les promesses de Dieu, mais la grâce de Dieu aussi être manifestée. Peu importe nos erreurs, peu importe ce que nous vivons, peut-être que toi, dans ton cœur, tu te dis, mais moi, en fait, dans ma famille, dans ma généalogie, il n'y a que des hommes mauvais. Si moi je suis là aujourd'hui, si je suis quelqu'un de méchant, c'est à cause de ma famille, c'est parce que j'ai eu une enfance qui était difficile, parce que mon passé a été difficile. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est à cause de ma généalogie qui est difficile. Mais en Dieu, toute chose peut devenir nouvelle. La Bible, elle dira que en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses peuvent devenir nouvelles. Et je terminerai par ce verset, Tite 2:11, qui dira « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Elle a été manifestée quand Jésus est venu sur terre. Elle a été manifestée quand Jésus, par amour, il s'est livré pour nous, afin que nous puissions avoir cette liberté, afin que nous puissions retrouver notre relation avec le Père qui nous a tant aimés. Il a pris pour nous le poids du péché que nous méritions. À lui seul soit toute la gloire, au siècle des siècles. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ainsi, cette généalogie, elle est plus qu'une simple liste de noms, mais elle nous montre un magnifique témoignage de la grâce de Dieu, de ce Dieu qui accomplit les promesses, de ce Dieu qui est plus grand encore. Et elle nous révèle le ministère de Jésus-Christ, celui qui a tout accompli. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous t'en rendons grâce encore. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui nous parle, merci. Encore parce que, oui, rien n'était laissé au hasard. Et nous croyons que si cette généalogie est là, c'est parce qu'elle a encore des choses à nous enseigner. Merci parce qu'au travers d'elle, nous voyons finalement ta grâce. Nous voyons que tu es ce Dieu qui accomplit les promesses, ce Dieu de la souveraineté, ce Dieu de la providence. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci pour le tout accompli, Seigneur Jésus, parce que tu es descendu sur terre avec humilité. Tu es pourtant le Fils de Dieu, le roi des rois, mais tu es descendu avec humilité. La Bible dit que tu t'es humilié jusqu'à la mort par amour pour nous. Merci Seigneur pour tant d'amour, tant de grâce. Seigneur, nous voulons que tu puisses régner dans nos vies. Nous voulons que tu puisses être le roi des rois dans notre cœur, Seigneur Jésus, et que nous ne puissions pas oublier ce que tu as accompli pour nous. Merci de bénir ton Église, de bénir chacun d'entre nous. Tu connais, Seigneur, le cœur de chacun. Seigneur, peut-être si certaines personnes n'ont pas encore fait cette rencontre avec toi, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent revenir à toi. Parce que tu es ce cœur bien, tu es ce Dieu qui est d'un cœur bien aimant, qui tend les bras toujours. Peu importe ce que nous avons commis, peu importe les péchés que nous avons commis, tu nous tends toujours les bras. Et la Bible nous dit que tu ne lasses de pardonner si nous venons à toi avec un cœur repentant. Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs même les plus endurcis. Merci encore Jésus d'agir encore ce matin. Sois béni Jésus. Amen. Gloire à toi Seigneur.